Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f- So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com.
Il y a deux choses, en fait, finalement. C'est la question relou, c'est pour quand, tu vois, quand on demande quand est-ce que tu as un enfant, c'est pour quand. Ça, c'est fou. Ouais. Ça, c'est juste... insupportable. Laisse-moi tranquille. Peut-être que je veux pas d'enfant. Peut-être que je peux pas en avoir. Peut-être que je veux pas en avoir. Enfin, voilà. La deuxième chose, même pour les gens, du coup, qui sont au courant que tu es en protocole, c'est vraiment, faut laisser, en fait, la personne aller à venir à soi, en fait. Soyez en écoute passive. Voilà. Cherchez pas à tout savoir, à tout comprendre.
Bienvenue dans Alors c'est pour bientôt, le podcast qui donne la parole aux femmes et aux couples qui rencontrent des difficultés pour concevoir un bébé. Chaque mercredi, je vous propose de partir à la découverte d'un nouveau témoignage et nous parlons des difficultés à concevoir un bébé et ainsi brisons le tabou autour des questions de fertilité. Moi c'est Anne Fleur, je vous parle depuis Boston aux États-Unis et je suis moi-même entrée en parcours PMA il y a quelques années. Dans Alors c'est pour bientôt, je donne la parole aux femmes et aux couples donc qui vivent ces moments et qui partagent avec générosité leur tranche de vie et le chemin emprunté pour commencer ou agrandir leur famille. Aujourd'hui, direction Montpellier, nous partons à la rencontre de Paul en couple avec Muriel. Si Muriel et Paul se sont rapidement rendus compte qu'ils étaient sur la même longueur d'onde et partageaient le désir de devenir parents, leur parcours de PMA fut très éprouvant. À raison d'une fille par an pendant 5 ans et après un an de pause nécessaire au milieu, Paul et sa compagne ont décidé de mettre un terme définitif à la FIV et à la PMA, qui a trop éprouvé leur mental mais aussi le corps de Muriel. Depuis, ils restent tous deux lucides mais espèrent parvenir à concevoir un enfant de manière naturelle. Dans l'épisode d'aujourd'hui, Paul se confie à moi à propos de l'impact professionnel de la PMA, surtout chez sa conjointe, et nous raconte ce qu'il aurait aimé savoir ou aurait fait différemment avec tout le recul de son parcours comme bagage s'il devait se relancer aujourd'hui. Enfin, Paul nous raconte comment le partage avec les proches peut être aussi bienfaiteur que difficile. Il nous explique comment il agit aujourd'hui en tant que proche de couple infertile, de la même manière qu'il aurait aimé être entouré. Un super épisode plein d'enseignements et de bienveillance. C'est parti, je vous présente Paul. Bonjour Paul, bienvenue sur le podcast.
Bonjour.
Comment vas-tu et d'où est-ce que tu nous parles?
Je te parle de ma maison située à Montpellier. Voilà, et je vais très bien.
Bon, super. Merci beaucoup d'avoir répondu à l'appel à témoignage que j'ai lancé, donc pour donner la parole aux hommes de la PMA également. Je pense que c'est super important ce que tu vas faire, partager ton histoire. Avant de rentrer dans le vif du sujet, si je puis dire, et vraiment partager ton histoire, ton parcours, est-ce que tu pourrais te présenter, me dire, je sais pas, quel âge tu as, ce que tu fais dans la vie, à quoi ressemble ton quotidien?
Qu'est-ce que je fais? Je suis responsable de centre de loisirs. Voilà, j'ai 36 ans et puis là le quotidien il est forcément bouleversé au vu des événements, donc voilà, je télétravaille, voilà, je m'occupe comme je peux en attendant la fin de cette galère.
Comment as-tu rencontré ta compagne? Je sais pas si vous êtes mariée d'ailleurs. Comment elle s'appelle, est-ce qu'on peut partager son prénom?
Elle s'appelle Muriel. Je l'ai rencontrée elle m'entend, elle est pas loin, donc j'ai peur de me tromper sur la date. Je l'ai rencontré il y a un certain temps. Je suis sous pression, là, je suis enregistré, là. Non, mais écoute, on s'est rencontré sur, via un site de rencontre, tout simplement. Puis c'est une affaire qui tourne bien, on est paxé, et puis voilà, ça tourne bien.
Ouais, ok, très bien. Et, l'envie de bébé avec Muriel, c'est venu rapidement?
Oui, rapidement, parce que en fait, je te dis là, j'ai 36 ans. C'est vrai que là, ça fait cinq ans, pardon, qu'on est ensemble. Et c'est vrai qu'on n'a pas 20 ans. Donc, elle a 2 ans de plus que moi. Voilà, la fameuse horloge biologique faisant son œuvre. Voilà, c'est les choses se sont faites assez naturellement, en fait, dans l'envie d'avoir un enfant entre elle et moi.
D'accord, ok, super. Alors donc du coup, vous décidez de vous lancer dans ce fameux projet bébé et comment ça se passe? Vous étiez tous les deux en bonne santé au moment de vous lancer là-dedans?
Moi, de mon côté, il n'y avait pas de souci particulier, rien à signaler, à part une calvitie naissante, voilà, on était sur quelque chose de plutôt normal. Après, c'est vrai que pour Muriel, les choses ont été, elle a eu un parcours un peu plus compliqué. Donc, elle avait un certain nombre de soucis de santé, en fait, avant de me rencontrer. Et d'ailleurs, en fait, elle espérait avoir, que le plus dur était derrière elle, en fait, avant qu'on se rencontre. Et puis, malheureusement, voilà. La vie a fait que, elle a été détectée très tardivement d'une endométriose. Donc, en fait, c'est via finalement le processus de suivi, la FIV, etc., qu'en fait, on l'a appris qu'elle avait l'endométriose. Alors, elle s'en doutait un petit peu parce que c'est quelqu'un qui est très à l'écoute de son corps et voilà. Mais voilà, le fait est que elle l'a appris assez tardivement et du coup, c'est sûr que c'est pas un facilitateur pour.
Ouais, d'accord. Mais avant les essais bébés, elle avait pas de soucis particuliers.
Non.
D'accord.
Non,
ok. Femme, ça que j'avais pas bien compris.
Enfin, si, quand même. Si, gros souci au niveau gynécologique quand même. Où elle avait été opérée. Elle était opérée en fait avant qu'on se rencontre. Lorsqu'elle vivait en région parisienne. Donc si elle avait été opérée et donc fallait un temps de repos pour l'utérus. Mais bon, le temps de repos était passé. Hein. Donc en fait, dans l'absolu, les de manière naturelle, on pourrait avoir un enfant. Mais on est dans la case un peu cause inconnue. Voilà.
D'accord. Ok. Ouais. Donc du coup, vous commencez les essais bébés. Il se passe combien de temps avant que vous vous dites bon, ça ne marche pas, faut peut-être qu'on aille consulter.
C'est un an ou deux à peu près. Et puis voilà, comme Muriel en fait commence à avoir de nouveau des soucis gynécologiques, c'est vrai qu'on a accéléré en fait le processus d'aller voir l'hôpital quoi pour engager une FIV, enfin un protocole en sens large.
Ouais, vous saviez que vous aviez besoin d'aide, donc vous êtes allé voir la médecine, quoi, pour voir comment est-ce qu'on peut vous aider là-dessus, quoi.
Ouais, assez rapidement. Ouais.
Ok, d'accord. Et donc, qu'est-ce qu'ils vous ont dit là-bas? Comment est-ce que la prise en charge s'est faite? Vous saviez pas encore à ce moment-là qu'elle souffrait d'endométriose, c'est ça?
Non, on l'a su. Enfin, je vais pas dire de bêtises, mais on l'a pas su tout de suite, ça c'est sûr. Et puis, ça nous a été annoncé d'une manière assez. ça a été annoncé un peu comme vous avez un rhume. Enfin, c'était un peu du même ordre. Donc, c'était, on vous l'avait pas dit. Enfin, c'était presque, donc c'était un peu abrupt comme façon de faire.
Vous avez donc essayé pendant un an ou deux.
Ouais.
Ça ne marche pas. Vous dites, OK, bon, on va aller voir la médecine va nous aider. Mais concrètement, du coup, on vous propose quoi? Puisqu'on ne sait pas ce que vous avez à ce moment-là. On vous fait des batteries d'examen, j'imagine. Et on vous explique quoi?
Ouais, tous les trucs possibles imaginables pour elle et moi. Et puis c'est vrai qu'avant avant la prise en charge PMA, voilà, les choses me reviennent. Le dossier avait été classé dans la catégorie infertilité inexpliquée, parce qu'en fait tous les feux étaient au vert au niveau hormonal, etc. Sauf que en fait, il a été repéré, si je ne dis pas de bêtises, qu'il y avait une adénomyose, si je ne me trompe pas de terme. Mais bon, dans l'absolu, naturellement, ça pouvait se passer. Mais néanmoins, il reconnaissait qu'au vu de l'endométriose, en fait, les fibromes, pardon, on gênait en fait le processus, quoi.
D'accord. Ok. Mais ça, donc, c'est venu a posteriori, puisqu'ils s'en sont rendus compte qu'il y avait de l'endométriose que plus tard.
Ouais, tout à fait. D'abord, en fait, les fibromes qui ont été repérés, et ensuite, dans un deuxième temps, l'endométriose nous a été annoncée. Voilà.
Ok, donc du coup, on est en 2015, c'est ça, pour votre entrée en PMA. Vous avez fait une première tentative d'insémination, c'est ça?
Oui, d'abord une insémination, tout à fait, qui a échoué. En 2016, il y a eu une FIV annulée parce qu'il y a eu une ovulation spontanée, en fait, sur un moment où personne n'y s'y attendait. 2017, une FIV avec deux embryons qui ont été perdus à la décongélation.
Ah non, c'est okay.
Voilà, la loose. chose qui arrive très rarement, mais bon, voilà. 2018, on fait le choix de... Parce que c'est... Enfin, tu le sais, quoi, c'est très, 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 très prenant, physiologiquement, pas intellectuellement, mais en termes... émotionnellement, quoi, je dirais même. Donc on décide de faire un an de pause de PMA, pilule en continu pour soulager les douleurs et reprendre une vie professionnelle entre guillemets normale. Normal comme ça peut être normal quand on a une endométriose assez péchue. 2019, du coup, de nouveau Mars en une FIV avec un embryon de nouveau perdu à décongélation.
Ah, oh, merde.
Ouais. Et puis, écoute, après, la dernière tentative avec une fille avec 3 embryons, transfert de 2 embryons. Mm-hmm. Et en fait, ce qui est assez fou dans le parcours, c'est que c'était qu'à la dernière FIV qu'on a réussi, en fait, à avoir un transfert d'embryons. Et donc, deux embryons étaient transférés. Mais bon, voilà, sans résultat derrière.
D'accord. Donc, ouais, finalement, on vous a déjà vachement espacé aussi, les FIV, malgré le fait que, les transferts n'aient pas toujours eu lieu.
Oui, tout à fait. Oui, parce qu'en fait.
Vous avez eu une FIV par an?
Ouais, à peu près, voilà. Ouais, parce qu'en fait, il fallait, il y avait deux enjeux qui étaient à la fois le repos pour elle, pour qu'elle puisse souffler en fait entre deux protocoles. Voilà, le corps prend cher et malheureusement elle en a plus ou moins la facture encore aujourd'hui. Et puis il y a l'aspect vie professionnelle parce que on est arrivé il y a pas si longtemps que ça, enfin en 2015 d'ailleurs, 2014 pour elle à Montpellier, et du coup il y a eu malheureusement une certaine instabilité professionnelle, donc derrière aussi, enfin le problème c'est que expliquer à un employeur que il faut que j'aille à l'hôpital, je suis pas là avant 9h30, 10h, enfin tout ce que ça implique, c'est pas toujours évident, et que du fois il fallait faire des pauses, trouver un équilibre entre à gérer toutes ces problématiques, quoi, entre la vie pro, la vie perso, le corps, ça, l'aspect physiologique, voilà. Donc c'est pour ça aussi qu'il fallait faire des pauses par moment, en fait, pour retrouver une forme d'équilibre, aussi précaire qu'il puisse être, mais retrouver une forme d'équilibre.
Alors donc tu dis effectivement que c'était difficile avec les carrières respectives.
Ouais.
C'est vrai que on parle souvent en PMA, il y a un droit à prendre ce temps, et en théorie l'employeur a pas vraiment son mot à dire, mais il y a la théorie et la pratique, et c'est vrai que c'est pas toujours c'est pas toujours évident en fait d'amener ça, surtout quand on est nouvel employé. Qu'on cherche à s'installer.
Tout à fait. Moi, la chance que j'ai eue, c'est de mon côté. Après, c'est beaucoup moins impliquant, il faut le reconnaître, pour nous les hommes. C'est que moi, je travaille pour la fonction publique, donc il y a certains avantages liés au statut qui font que c'est plus conciliant. Mais il est vrai que quand on travaille dans le privé, quand on vient à peine d'arriver, c'est quand même des sujets très délicats à aborder, quoi. Ouais. Donc
et puis c'est aussi hyper personnel, non?
Exactement, exactement. Et puis on a peur, en fait, clairement aussi, on peut avoir peur aussi que ça remette en cause l'engagement de l'employeur quand on est en période d'essai. Mmh. C'est tendu, quoi.
D'accord. Donc vous en avez parlé tout au long de ce parcours avec votre entourage, vos amis, vos familles?
Ouais, alors tout à fait. On en a parlé à la famille. Le dernier protocole, on n'a rien dit à nos plus proches. Au début, on a fait le choix d'en parler. Après, c'est aussi des questions plus personnelles, en fait, sur la pudeur ou pas qu'on apporte à certains sujets. Moi, c'est vrai qu'au début, j'étais plutôt enclin à en parler. Muriel aussi, après. Mais en fait, on s'est rendu compte que ça mettait plus de pression qu'autre chose, et que du coup, l'entourage, c'est pas malveillant, mais en fait, il va poser des questions, ce qui est un peu normal puisqu'il s'intéresse à nous. Mais du coup, ça met une forme de pression sur alors, qu'est-ce que ça dit quoi. Enfin, ils essaient de trouver les bons mots. Mais bon, voilà. En fait, on n'a pas envie d'entendre. Enfin, ça dépend, chacun réagit à sa manière. Mais on n'a pas toujours en fait envie d'entendre l'avis des autres, et c'est ça en fait qui est. C'est pour ça que le dernier protocole, en fait, on n'a rien dit à personne. On n'a pas donné de. On leur a dit en fait quand c'était fini. Et ben on leur a dit on en a fait un. Ça a pas marché. Pour telle et telle raison, on a été assez transparent sur les raisons, mais c'est le choix qu'on a fait.
Ouais, c'est votre projet. Ouais, je comprends. Donc ça, c'était le dernier protocole, c'était en 2020, juste avant le confinement, du coup.
Non, c'était en 2019, en novembre, pour être précis.
D'accord, ok. Donc il y a quand même pas si longtemps
que
ça.
Non, ouais, c'est encore très neuf. Ouais.
Et là, du coup, vous en êtes où de votre projet? Vous avez décidé, on fait une pause?
Non. Projet bébé, non, absolument pas, on n'est pas en pause là-dessus, mais je pense qu'en fait il y a deux angles différents. Alors pour répondre par rapport à la FIV, c'est pas une pause là, c'est un arrêt définitif, puisque pour Muriel, en fait ça a été beaucoup trop impliquant. En fait, c'est un aspect purement technique, et je dirais même prise en charge sécu. On pourrait encore en faire deux. Le souci, c'est parce qu'en fait c'est le transfert d'embryon qui
qui voilà, exactement. Donc ça là-dessus, y a pas de souci, mais le problème c'est que son corps, quoi. Enfin, parce que à un moment donné, on a eu des vraies discussions, et que aujourd'hui, on est au mois de mai, quasiment fin mai, et que elle se retrouve encore en fait encore en train de filtrer finalement toutes les hormones qu'elle a ingurgitées pendant ce temps. Donc
elle le sent encore.
Elle le sent encore, tout à fait. En fait, à travers l'endométriose, à travers les, parce qu'elle a eu trois interventions chirurgicales lourdes, en fait. Hein. Elle a eu deux cœloscopies en 2013 et une cœloscopie en 2016. Ouais, voilà, qui était censée préparer justement la nidification, etc. En 2016, mais bon, au final, ça a plus déclenché de douleurs qu'autre chose. Donc c'est aussi sur ça, en fait, c'était qu'il y avait un double combat entre cette infertilité inexpliquée et en même temps les enjeux professionnels et en même temps les relations autour. Enfin voilà. Donc et pour revenir sur la question sur l'arrêt bébé, non, c'est juste qu'en fait, bah on va essayer de maximiser les chances de manière naturelle. Maintenant, on est lucide. Enfin, pour ce qui est de ma part, enfin tous les deux, on est très lucides, c'est qu'on sait très bien le temps passe et que bah oui, on a moins de chances qu'il y a 3, 4, 5 ans, 10 ans d'avoir un bébé, ça c'est sûr. Voilà, donc s'il arrive, bah ce sera magnifique. Après, je pense qu'il y a deux angles différents et enfin bon, je vais parler pour ce qui me concerne moi. Mais j'en ai parlé aussi avec quelques amis hommes. Pour ma part, en fait, avoir un enfant, ce serait une forme d'accomplissement, mais je souhaite pas en fait résumer ma vie au fait d'avoir un enfant ou pas. Donc voilà, je pense que pour Muriel, et je vais m'engager sur ce terrain-là, je pense que pour beaucoup de femmes, c'est différent, la perception de ce sujet est différente. Voilà, du coup, je pense aussi que c'est lié peut-être aussi parfois à l'énergie que l'un ou l'autre mettent en fait dans le processus, mais bon, je sais pas, il y a peut-être des hommes qui me contrediraient, hein, qui ont mis autant d'énergie que leurs femmes, qui en mettent autant dans le but d'eux, mais je sais pas, enfin moi.
Après, ça peut être de l'énergie, mais c'est que peut-être que tu aimerais, c'est ce que tu me disais un peu quand on préparait cet épisode, c'est que t'aurais aimé aussi t'investir plus dès le début. Parce que c'est l'énergie mentale, tu la mets quand même. Enfin, je veux dire, c'est tu utilises ça aussi, les essais avec ta femme.
Oui, oui, mais en fait, comme nous, on a moins l'implication physiologique.
C'est ça.
Ouais, tu vois. Enfin, le truc, c'est que ça joue sur les hormones. Du coup, ça joue. N'est pas que sur les hormones. Ça joue aussi sur. Tu sens que ton corps est un peu plus rouillé. Ça peut accélérer l'ostéoporose. Mmh. Hein, et c'est pas. Et en fait, tu peux te dire, ouais, c'est d'être dans 20 ans, mais en fait, non, quoi. Enfin, il y a des.
Non,
ouais,
c'est vraiment pas
anodin. Et du coup, voilà, l'implication physiologique étant beaucoup plus accentuée pour la femme, c'est ça en fait. Et ça, c'est ma psychologie de comptoir. Mais en plus, je pense que beaucoup d'hommes, et moi, en tout cas, je vais pas parler au nom des hommes, mais au nom de moi, je fais partie de ces personnes qui ont besoin de se brûler pour comprendre, quoi. En fait, t'as beau m'expliquer que le feu ça brûle, si je mets pas la main dans le feu, bah, je te croirais pas. Donc voilà, en fait, c'est ça aussi qui l'enjeu est le même, mais c'est la vision des choses est très différente en fait sur le ressenti, c'est-à-dire qu'en fait moi j'étais moins je me sentais enfin et d'ailleurs j'en ai presque développé une forme de culpabilité pendant un moment dans le sens où je me sentais pas impliqué et elle me l'a reproché à juste titre d'ailleurs, hein, j'étais moins impliqué, j'allais pas forcément à tous les rendez-vous de suivi. Les monitorages ou voilà et mais voilà
pour te protéger
parce que j'étais je sais pas est-ce que c'est une forme d'égoïsme est-ce que j'en sais rien en fait j'ai pas analysé ça mais sur la fin par contre clairement on a discuté et je me suis plus impliqué j'allais pas tous les rendez-vous mais à beaucoup plus de rendez-vous médicaux et sur la fin j'étais là sur quasiment tous les gros rendez-vous gynécologiques d'ailleurs pas forcément monitorage mais parce que en fait voilà j'ai saisi en fait je dirais l'importance en fait pour elle de se dire bon on est à deux là-dedans et au début je dois reconnaître que je l'ai pas forcément saisi il faut le reconnaître pour les raisons que j'ai évoquées tout à l'heure hein, je pense que c'est pas qu'on s'en fout mais je pense que beaucoup d'hommes en fait ont vraiment besoin d'être devant le fait accompli avant de réagir et on est beaucoup dans la réaction et moins dans la proactivité.
Question du coup par rapport à ce que tu disais les questions de fertilité et la PMA, comme tu dis, c'est quand même vachement prenant. Dans le couple, on est souvent déséquilibré puisqu'on vit pas les choses au même rythme. On n'assimile pas les choses au même rythme non plus. Comment ça s'est passé justement dans votre couple et est-ce que tu as des, avec le recul justement, tu as des conseils, des choses que tu aurais peut-être faites différemment, des choses que tu es content d'avoir fait? Quel recul tu prends justement comme ça là-dessus sur l'impact que la PMA et la fertilité peut avoir ou a pu avoir sur ton couple?
Moi, la première chose que je voudrais dire, ce qu'il y a de beau entre guillemets dans notre histoire, c'est que ça n'a pas fragilisé notre couple. Il y a pu y avoir des moments tendus parce que il y avait parfois des ressentis, des choses à se dire l'un envers l'autre, parce que avoir un enfant, c'est pas un sujet anodin, c'est pas la question, c'est pas de savoir si on achète une poubelle grise ou noire. Ça a vraiment, je dirais même que ça, je pense même que ça a renforcé notre histoire. Mais je sais qu'à contrario, je sais que ça a fragilisé aussi des couples. Mais nous, la chance qu'on a, c'est que nous, ça nous a renforcés.
Quelles sont un peu les leçons en fait que tu tires de tout ça? Qu'est-ce que tu referais?
Ce que je referais, c'est ce que je t'ai évoqué en partie tout à l'heure. Hein, c'est le fait de plus vite s'impliquer et de participer au maximum de rendez-vous, au maximum de monitorage. Parce qu'en fait, se lever à 6h30 voire même plutôt 5h30 du matin pour être la première à passer à l'hôpital et derrière enquiller sur une journée de travail. Voilà, ça, c'est, je pense que c'est pas des choses anodines, avec le petit examen qui va bien avec, qui te défonce. Là, il faut pas. Je suis désolé, je suis un peu cash. J'aurais regretté en fait de pas m'être plus investi, non pas pour faire moi l'examen, mais juste pour être là en fait, pour dire je suis là, on est ensemble. Moi aussi j'ai les yeux qui collent et on est tous les deux. Et moi aussi, je vais enquiller avec la journée de travail derrière. Et ouais, ça c'est vraiment un regret que j'ai eu. Et une culpabilité que j'ai encore en partie aujourd'hui, que j'ai cherché à corriger au fur et à mesure des tentatives, je dirais. Donc non, je suggérerais plutôt à tout homme qui souhaite s'investir là-dedans de vraiment en fait faire le maximum de rendez-vous avec sa compagne, même sur des choses qui finalement où théoriquement on n'est pas censé servir à grand chose. Et en fait à tort, c'est ce que j'ai pensé. C'est que je servais pas à grand chose physiquement, physiologiquement, mais psychologiquement, le soutien, il est très important pour, dans l'équilibre du couple, je pense.
Ouais, ça, ne pas négliger finalement, en fait, le soutien psychologique qu'on peut apporter juste par sa présence dans ces, dans ces étapes qui pourtant, médicalement, tu te dis que
c'est ça. T'as pas, ça exactement. Pas grand-chose, quoi. Mais j'ai mis du temps avant de capter ça, quoi, clairement.
Aujourd'hui, vous êtes donc à vous dire, on va essayer de manière naturelle, on arrête en gros les traitements médicaux. Mais tu me disais aussi que si tu avais quelque chose que tu aurais fait différemment, tu m'as dit, j'aurais peut-être économisé plus pour pouvoir chercher des meilleures structures d'entrée. Qu'est-ce que tu veux dire par là du coup? Est-ce que tu veux dire que tu serais allé voir à l'étranger, tu serais allé voir dans le privé? Ou est-ce que c'est quelque chose du coup que tu considères pour le futur? Ou enfin,
t'en es où là? J'ai pas un avis tranché sur la question, mais c'est vrai que le fait est que en France, il semblerait que les techniques ne soient moins pointues, il semblerait que les résultats soient moins probants que dans des pays tels que l'Espagne ou même la Belgique. Peut-être que toi, tu pourras m'en dire plus à ce sujet. Donc. Peut-être avec le recul, ouais, qu'il aurait peut-être fallu mettre le paquet d'entrée de jeu, en fait, pour éviter justement de multiplier les tentatives. Après, faut pas se leurrer. Enfin, à mon sens, il y a quand même une question financière derrière ça. C'est-à-dire que la santé et même la fertilité quelque part est quand même liée un peu aux finances qu'on peut avoir. C'est-à-dire que je vais être très très caricatural, mais c'est vrai que quand on a les moyens, on peut aller dans les meilleures cliniques européennes ou du monde, pour maximiser ses chances et ainsi garder son capital santé pour plus tard. Et c'est vrai que nous en fait on savait que le CHU de Montpellier était un des plus performants malgré tout. Hein, c'est faut pas se leurrer, c'est si ce n'est je crois le plus performant d'ailleurs de France, après il y a eu beaucoup de soucis d'ordre administratif. C'est assez, je sais pas si la plupart des personnes qui ont été confrontées à la FIV ont vécu ce genre de, mais bon, c'était vraiment souci administratif sur souci administratif, sachant que c'est quand même un peu double peine quoi, parce qu'on a déjà, on est déjà dans un processus très impliquant et derrière en plus ils sont à l'arrache. Alors bon, moi je sais pourquoi ils sont à l'arrache, mais parce qu'ils ça manque de moyens. Mais voilà, le fait est que je pense que dès le début, j'aurais bien la question financière en tout cas n'est pas négligée. soit dans l'avant pour se dire je mets le paquet en visant les meilleures cliniques avec les meilleurs taux, etc., ou les meilleurs hôpitaux, enfin voilà, ou soit même sur le pendant, en fait, sur il y a quand même, comme je te disais, c'est l'implication professionnelle. Peut-être aussi que, je sais pas, tu peux pas avoir une promotion parce que t'es plus souvent absente que d'habitude. Enfin voilà, c'est juste. Donc ouais, il y a quand même ce critère-là à prendre en compte.
Très bien. Question, peut-être qu'on vous l'a posée et peut-être que ça peut être. Parfois on n'est pas prêt ou même ça nous intéresse pas du tout. Est-ce que vous avez considéré du coup d'autres manières d'accéder à la parentalité ? Je pense notamment à l'adoption ou pas du tout ?
Oui. Alors. En gros, les grandes lignes de comment on a abordé ça, au début, c'était non, parce qu'on voulait vraiment, de manière peut-être égoïste, je sais pas, mais on voulait notre enfant à nous. Voilà, c'est le mot que je vais utiliser.
Je sais pas, mais
en tout cas, on voulait notre enfant à nous, c'est-à-dire le fruit vraiment en fait de nous deux, de nos deux personnes, de notre amour, etc. Et en fait, après, en fait, on s'est dit, si on arrive à avoir un enfant, peut-être, pourquoi pas, envisager l'adoption pour le petit frère, petite sœur, voilà, en disant bon voilà, ça pourrait être un joli geste pour l'humanité que d'adopter un enfant, voilà. En fait, le truc c'est qu'en fait là sur les derniers temps, en sortant de 4 ans de protocoles divers et variés, on sort assez fatigué. C'est-à-dire qu'en fait pendant 4 ans, comme on a réglé une grosse partie de notre vie par rapport à ça. Les vacances, la vie professionnelle, les relations aussi avec les autres, c'est-à-dire tu peux pas prévoir un dîner là parce que t'as une piqûre à faire, tu fais infirmier le soir en faisant les piqûres toi-même, voilà, enfin toutes ces choses en fait quoi qui ont été mises en stand-by. Et du coup, en fait, pour revenir sur le sujet de l'adoption, on s'est renseigné et c'est assez déprimant en fait le processus. Le temps moyen, si je dis pas de bêtises, je crois que c'est 8-9 ans pour un enfant. Voilà, on a parlé que Muriel, j'ai dit écoute, franchement, mon premier enfant, j'ai 36 ans, si je voulais attendre 44 ans avant un enfant, non. Ça me branche pas.
C'est plus les délais.
Ouais,
en fait,
aujourd'hui, je pense qu'en fait, c'est plus les délais et tout ce que ça implique derrière de travail administratif, de travail. Le mot n'était pas adapté, mais d'implication administrative.
C'est une charge.
C'est bon, on a fait 4 ans à essayer de jongler comme on pouvait déjà par rapport au protocole de FIV. On se voyait pas. Peut-être que ça va changer, hein, je sais pas. Mais on se voyait pas se relancer de nouveau dans un nouveau combat, quoi. En fait, voilà, on est une certaine fatigue. Ouais. Là, en fait, on a vraiment envie de redevenir un couple pleinement.
D'insouciance et voir où la vie nous amène, quoi. Merci beaucoup. Avant que nous nous quittions, est-ce qu'il y a quelque chose d'autre dont tu aurais voulu parler?
Les podcasts sont souvent, finalement, c'est les premiers concernés qui écoutent les podcasts. Maintenant, mon message s'adresserait plus finalement aux proches. Qui encore une fois, nous pour nous ont été bienveillants. Il y a deux choses en fait. Finalement, c'est la question relou, c'est pour quand, toi, quand on demande quand est-ce que tu as un enfant, c'est pour quand. Ça c'est fou, ça c'est juste insupportable. Fous-moi la paix, laisse-moi tranquille. Peut-être que je veux pas d'enfant, peut-être que je peux pas en avoir, peut-être que je veux pas en avoir. Enfin voilà. Et la deuxième chose, même pour les gens du coup qui sont au courant que tu es en protocole. C'est vraiment de se mettre à la place d'eux et se mettre dans une position presque d'attente et pas de poser des questions en fait pour savoir comment ça va, comment ça se passe, etc. Faut laisser en fait la personne aller à venir à soi en fait. Si j'ai n'importe quoi, toi t'es dans le protocole, moi je mettrais vraiment dans une stratégie de voilà, je te laisse. Ouais, de l'écoute, ouais, exactement. Et pas de. Mais après, bon, je sais que souvent les gens ils font ça parce que c'est plus finalement pour leur propre. Ils s'inquiètent eux-mêmes pour toi et du coup, par voie de résonance, ils te posent des questions. Mm-hmm. Mais voilà, ce sera un conseil pour les proches. Soyez en écoute passive. Voilà, cherchez pas à tout savoir, à tout comprendre.
C'est vrai que c'est un équilibre qui est aussi difficile à trouver pour les proches parce que ils ont envie de montrer aussi, je pense, pour avoir été des deux côtés un peu du truc, t'as envie de montrer que tu t'intéresses aussi en fait, t'as envie de montrer que que t'en as pas rien à faire, que mais tu te sens en même temps démuni et tu sais pas trop comment amener les choses.
Ouais, ouais,
t'as envie de dire que t'es là en fait, tu vois, que si t'as envie de parler, t'es là, mais tu te sens facilement, puis pour avoir été du coup du côté du couple qui galère,
exactement,
ça peut être aussi intrusif en fait. Il y a des moments en fait où t'as juste pas envie d'en parler, et j'ai un invité, tu vois, qui me disait ça il y a quelques semaines, et je trouvais que c'était très bien dit. C'est, elle me disait, on a arrêté d'en parler parce qu'en fait, finalement, à chaque fois, on devait expliquer nos mauvaises nouvelles. Et c'est vachement dur,
– tu as très bien résumé. C'est notamment Muriel, en fait, hein, quand elle m'a dit, écoute, on va arrêter d'en parler à nos proches. C'était vraiment ça, en fait. C'était le sentiment et qui exacerbait pour la femme, parce que malheureusement, elle porte trop de choses sur son dos, sur ce sujet. Le sentiment exacerbé que effectivement en fait t'es porteuse que de mauvaises nouvelles, et en fait t'es vue, elle m'a dit ça à plusieurs reprises, comme un utérus sur pattes, quoi, plus un utérus qui fonctionne pas, entre guillemets, hein. Mais je présente les choses de manière un peu manichéenne, mais c'est un peu comme ça finalement que elle percevait les choses. Après je pense que ça dépend de la nature de chacun. Moi c'est vrai que je suis moins pudique, donc j'ai moins de soucis à en parler, mais oui, je peux tout à fait comprendre cet état d'esprit, quoi.
Ah, c'est dur, hein. c'est dur. Bon, très bien. Pour finir, est-ce que tu aurais un conseil, tu nous as parlé de l'implication que tu aurais voulu donner, mais est-ce que tu aurais un conseil à donner à des hommes justement qui se lancent en parcours PMA, ou qui se demandent justement est-ce qu'on va se lancer en parcours PMA parce que on n'arrive pas là où on voudrait, ou à toi même justement, en 2015 quand vous vous êtes lancé dans le projet rétrospectivement, qu'est-ce que tu te dirais, qu'est-ce que tu te conseillerais?
Implique-toi tout de suite. C'est maintenant, quoi. Sans se mettre la pression. Parce que, c'est pas un examen. On joue pas, personne ne va mourir. Il y a même plutôt que quelqu'un, il y a plutôt même plus de chances que quelqu'un naisse. Mais non, c'est un implique-toi. Voilà. C'est ce que je dirais à mes congénères, c'est implique-toi. Vraiment. Écoute-la pour de vrai. C'est un sujet, trop impliquant et excessivement impliquant pour les femmes pour prendre ça à la légère. Voilà, c'est le mantra.
Mais écoute, en tout cas, Paul, je te dis un très grand merci d'avoir pris le temps de parler avec moi ce matin. Je pense que c'est hyper important justement qu'on donne la parole aux hommes aussi, en fait, parce que j'aime pas trop les clichés genrés, mais finalement c'est vrai que vous en parlez quand même beaucoup moins. Et voilà, si le podcast peut aider à libérer la parole dans... pour tous les couples et pour tout le monde au sein du couple, je pense que ce sera un grand succès. Donc je te dis vraiment un grand merci. Je vous souhaite beaucoup de bonheur à toi et Muriel. Je vous souhaite que votre vision de la famille en fait soit celle que vous aurez. Et puis je vous souhaite tout le meilleur.
Merci à toi pour tout le travail que tu entreprends, et merci à toi pour avoir fait cette démarche, et je te rejoins, il faut faire parler les hommes, c'est pas une tâche toujours aisée pour mes collègues et moi-même, mais c'est un travail qui est nécessaire. Voilà, donc merci à toi pour tout.
Avec plaisir, à bientôt Paul.
Et voilà, c'est la fin de ce nouvel épisode. Merci infiniment à mon invité pour son partage, et merci à vous d'avoir écouté jusqu'au bout. Si vous souhaitez soutenir le podcast, parlez-en autour de vous, partagez-le avec votre entourage afin vraiment de permettre à toutes les femmes, hommes, couples qui passent par là de retrouver ces témoignages pleins d'informations, d'espoir et de bienveillance. Sinon, rendez-vous sur Apple Podcast pour donner 5 étoiles au podcast et lui laisser un petit message afin de nous aider à gagner en visibilité. Si vous souhaitez venir débattre, poser des questions à propos du dernier épisode avec la communauté, rejoignez-nous sur Instagram @alorscestpourbientôtpodcast, et pour témoigner, direction le site internet alorscestpourbientôtpodcast.com. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée et j'ai déjà hâte de vous retrouver mercredi prochain.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. HelloFresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.